va faire une retranscription parce que souvent les débats, c'est des prétextes à faire des débats. Alors c'est sympa en soi, mais nous on aimerait que ça impulse un peu une dynamique parce qu'on veut refaire à la fête de l'humanité, au stand de la paix, parce qu'il y a son chômeur. On avait essayé de faire l'année dernière un débat sur la presse alternative qui avait été une catastrophe vu que personne n'était venu, y compris les invités. Donc on va refaire. On va refaire un débat sur la presse alternative à la Courneuve en septembre, voilà, dans notre stand de chômistes en lutte. On a été invité, suite aux 20 ans du Chia Bibi à la Fanzino, on a été invité à Tours par Radio Béton en novembre pour faire à peu près la même chose. Donc on va refaire un débat aussi. On va essayer de faire dans un lieu pour l'instant encore indéterminé à Paris en novembre aussi. À nouveau, c'est un peu cette même formule, donc à nouveau un débat sur la presse alternative. Et il y a Lille, les camarades de Precious Oldies, un sous-système dont on est allé fêter les 10 ans à Lille, qui veulent aussi organiser ça. Donc l'idée, c'est que ce qui va se dire, on va essayer dans sous quelle forme, on verra, on ne sait pas encore, d'en faire des actes qui vont servir pour que les débats ne soient pas des répétitions. Et qu'on puisse évidemment permettre à d'autres personnes de s'y greffer. Ici, bah, vous avez tous plus ou moins un rapport avec la presse alternative. Qu'est-ce qu'on entend par presse alternative ? Moi, peut-être très modestement, qu'est-ce que j'entends par presse alternative ?
On ne parlait pas de la presse underground plutôt ?
Underground, ouais, si tu veux, mais c'est un mot anglais. Moi,
c'est alternative.
Mais bon, underground, alternatif comme tu veux. Après, est-ce que CQFD est underground? Ils sont quand même en kiosque. Pour moi, la presse alternative, c'est une presse qui propose une alternative à ce que propose la presse commerciale, la presse de marché, la presse financée à 90% par la publicité, par des annonceurs. Donc, qui ne peut pas être libre. Donc déjà, une presse alternative, ça peut être effectivement CQFD qui tire à plusieurs milliers d'exemplaires et qui ont une distribution en kiosque. Je pense qu'Anatole de CQFD va en parler aussi des problèmes d'avoir accès à ce genre de distribution. Et un fanzine tiré à 50 exemplaires qui parle de bicyclette et tout. On a de toute manière plus de rapports qu'avec VSD, etc., etc. Même si, on pourra en parler aussi, il y a des exceptions en kiosque de canards faits avec passion et assez indépendamment. Mais bon, l'idée, c'est de voir qu'on a tous des problèmes qu'on va nommer. Hein, j'ai eu la chance d'aller en URSS en 88, mais c'est pas pour autant que j'ai pris la manie de savoir avant un débat qu'est-ce qu'allait être la conclusion du débat. Je ne sais pas ce qui va se dire forcément. L'idée, c'est d'amener une dynamique avec tous les organes de presse, quelle que soit leur volonté de grandeur et de diffusion, pour voir comment chacun on a nos pratiques, chacun on peut apprendre des autres, et qu'on peut casser les barrières aussi. Je regrette qu'il n'y ait pas, ou à moins je ne sais pas, de représentants de zine de cinéma, parce que je pense que en France, si je pourrais résumer comme ça, peut-être la fanzino pourra le dire plus précisément, il y a quand même trois courants de fanzines qui sont, quatre courants qui sont les fanzines politiques, les fanzines punk et assimilées, les fanzines de cinéma et les gravezines. Il y en a d'autres évidemment, mais bon, disons qu'on va croiser les pratiques et essayer de parler le plus clairement possible des nôtres et voir quels sont les problèmes. Et je pense que le plus gros problème, c'est pas finalement la fabrication, puisque bah, ça, comme on en parlait tout à l'heure, il faut juste de la passion, de l'envie et un peu de système D. C'est pas forcément l'accès aux subventions, même si ça pourrait être une part du truc, etc. L'accès à la publicité, bon, ça c'est hors de propos. C'est le problème de la diffusion. Alors là, encore une fois, faut pas penser que, juste très rapidement, Lionel pourra en parler, où il est, Lionel. Et qui s'occupe de la diffusion du Chia Bibi. Nous, on a parlé, bon, on a fait fait l'historique tout à l'heure. On a fait 5 numéros à 2000 exemplaires. Ils sont très très bien diffusés, enfin vendus tout au moins. Et le dernier, on est passé à 3000 exemplaires. Et on a une diffusion qui est par un réseau de potes. C'est-à-dire qu'on a un pote à Marseille, on lui envoie le stock et il fait le tour des boutiques. On a un pote à Lyon, etc., etc. Il y a différents lieux. On est diffusé aussi bien dans les salons de tatouage que dans des bars, que dans des disquaires, que dans des librairies spécialisées en cinéma, en librairies politiques, etc. Mais bon, c'est la démerde et du coup, nous, on arrive presque à l'excès inverse. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est pratiquement plus importante que les efforts qu'on peut mettre humains pour rendre accessible le canard à tout le monde. Et évidemment, on est loin de pouvoir imposer nos conditions aux messageries de presse où on est aussi devant, ça on pourra aussi en parler, je pense à Nico aussi, des zones d'Artaya, les rares distributeurs indépendants, diffuseurs indépendants prennent des marges de fonctionnement qui sont justifiées mais qui sont trop importantes pour nous. Voilà, donc... la discussion est ouverte. Je pense que si des personnes contestent ma vision de ce qu'est la presse alternative, on peut en parler. Mais je pense que l'important, c'est de se focaliser aussi sur comment on fait pour échanger nos pratiques, échanger nos problématiques, se fédérer dans un certain sens. Et puis, on va voir comment on peut niquer la presse de masse. Je passe la parole à la droite ou à ma gauche,
selon les évidences politiques. Non, je ne sais pas si on part de ce que tu définis comme presse alternative. Effectivement, CQFD, il peut rentrer dans cette définition-là, dans le sens où on est un journal, on dirait plutôt indépendant, dans le sens où on ne demande pas de subvention. Notre fonctionnement, c'est que du bénévolat et le lectorat qui nous permettent de continuer à faire ce journal. Et donc on est effectivement contre la presse qui fonctionne à grand renfort de publicité et a fortiori contre la presse qui est dans les mains des marchands de béton ou des marchands d'armes. Juste CQFD au départ, c'est une initiative qui part d'un compromis ou en tout cas d'une rencontre de militants, de gens qui étaient dans des réseaux de réfractaires au service national, ou dans des réseaux d'aide aux sans-papiers, qu'on rencontrait d'autres gens qui étaient en rupture de banc du journalisme, de Charlie Hebdo, etc. Donc, et ou d'autres gens qui avaient des pratiques d'auto-organisation, de diffusion, etc. Je pense à une revue qui s'appelait Tic Tac dans les années 90, qui justement cherchait des voies complètement indépendantes, un peu au hasard, à la rencontre des gens, etc., de diffuser des pratiques et des luttes sociales. CQFD s'est constitué différemment. C'est-à-dire, ce qui est différent à ce qu'on peut appeler la presse alternative, c'est que c'est une presse qui, finalement, est un peu à cheval et un peu un compromis entre ce qu'on a coutume d'appeler la presse militante, la presse satirique, parce que ça, y a quelque chose qui rappelle effectivement des expériences de presse satirique, les bonnes heures ou les mauvaises heures, enfin tout dépend des goûts, mais et une presse aussi qui essaie d'avoir son identité propre. Alors ce qui distingue peut-être CQFD effectivement des pratiques qu'il y a ici, c'est que comme certains journaux militants, etc., CQFD a fait le choix il y a 8 ans d'aller dans les kiosques. C'est-à-dire que c'est peut-être un compromis en soi, parce que les kiosques sont tenus par des messageries. Il y en a deux qui monopolisent en gros le marché des messageries, dont les NMPP qui sont Presstalis maintenant, ou Lagardère à départ. Donc on est quelque part aussi les MLP, Messageries de Lyon, etc., qui fonctionnent à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est dans leur distribution, on n'est pas sûr d'être très visible en kiosque, et en plus ils nous prennent de plus en plus d'argent. À un moment c'était à peu près 50%, maintenant c'est carrément 70%. Donc il y a une logique dans la grande distribution qui est de couler les petits titres, de toute façon, qui est de couler, de pas leur donner de place en kiosque, etc., de les mettre derrière, parce que les kiosques de toute façon sont sont des endroits saturés de produits commerciaux et dérivatifs commerciaux, des DVD, tout ce que vous voulez, des jouets. Mais plus la presse, même ce qu'on peut dire, la presse d'opinion, enfin, ce que représente la presse aujourd'hui, on peut avoir une piètre idée de ce que c'est, effectivement, mais ça ne remplit même pas le rôle qui serait de donner un éventail de la diversité, finalement, de la presse. Nous, on a fait le pari d'être en kiosque pour une question de visibilité. C'est pas une question commerciale, c'est d'essayer de faire venir des lecteurs, la curiosité des lecteurs sur quelque chose qui n'irait pas voir forcément ou qui n'irait pas chercher dans des infokiosques ou dans des librairies ou dans des lieux où on sait qu'on peut trouver déjà une presse à certains. Donc on allait devant le grand public, entre guillemets, on allait à la rencontre du grand public. Est-ce que ça a marché? Alors, on n'est pas dans une situation très glorieuse. Enfin, commercialement, on survit à peine pour reproduire tous les mois le fonctionnement du journal. Donc c'est effectivement assez compliqué. Mais si on se retirait, nous, de cette diffusion-là, si on se repliait sur des simples abonnements ou des endroits ciblés plus... on va dire, où les gens sont sûrs de trouver le journal, on y perdrait, on pense qu'on y perdrait aussi. Donc la question peut-être sur laquelle on peut venir, c'est quel moyen de diffusion, quel moyen de distribution, est-ce que ça peut exister un moyen de distribution parallèle, alternatif, comme il y a eu des expériences, il y a eu l'expérience de Cohérence qui a cherché à mettre en place comme ça une diffusion de journaux, de éditions, etc. Qui a en coopérative, enfin ça fonctionnait en coopérative et qui s'est confronté aussi à toute cette lourdeur d'entretenir une démarche même coopérative mais commerciale. Donc voilà, bon, CQFD, c'est aussi une solution de facilité d'aller en kiosque, hein, quelque part. On espère qu'il y a toujours des gens qui vont nous découvrir. Il y a toujours... Donc après, bon, c'est un peu difficile de parler et de simplement de la diffusion sans parler du contenu, sans parler de ce qu'on cherche à développer comme idée. Nous on est, enfin je pense que tout le monde connaît un peu ou moins, enfin je sais pas, mais le journal, on essaie d'être bon, un journal qui va à rencontre de lutte, qui relaie des phénomènes de flicage, enfin qui fait une critique sociale et qui relaie aussi des expérimentations sociales. Donc nous, dans notre démarche, effectivement, on se sent pas dans la presse conventionnelle, on se sent complètement à part, on se sent beaucoup plus dans une dynamique indépendante, autonome, on a des comptes à rendre qu'à nous-mêmes, en gros, quoi. Et, mais voilà, quoi. On espère aussi qu'il y ait un élargissement de une forme de lectorat. Alors est-ce que c'est un bon calcul, est-ce que c'est se faire des illusions sur aller chercher des lecteurs, etc. Je sais pas, ça peut être le sujet d'autres points de vue, quoi. Donc bon, en gros, pour reprendre ce que je disais, c'est que la diffusion en kiosque, c'est évidemment un piège, c'est évidemment quelque chose d'assez bon, de compromettant, dans certaines mesures moins compromettant finalement qu'une arnaque, parce que on est mal diffusé, on est invisible, on doit nous chercher derrière Turf Magazine ou à côté de Rivarol, etc. Enfin bon, mais bon voilà quoi, nous on a encore on utilise encore ce biais là. Est-ce que ça peut durer, etc. Je sais pas. Évidemment, c'est plus intéressant pour nous d'être visible lors de mouvements sociaux, lors de manifs, de rencontrer effectivement les lecteurs de cette façon-là. Voilà, quoi, je sais pas. Après.
Vous pouvez dire à combien vous êtes tiré et
alors voilà, bon,
combien de points de vente presse.
Voilà, techniquement, on est obligé d'avoir, pour être visible en kiosque, on est obligé d'avoir un tirage assez fort. on a un tirage de 15 000 exemplaires pour une vente qui a oscillé aux meilleures heures à 3 500 et maintenant qui est plutôt autour de 2 500. Et on a à peu près l'équivalent en abonnement, plus d'autres biais de diffusion par des colpos, par des gens qui nous distribuent sur les marchés, les manifs, etc. Pas assez d'ailleurs, parce que ça c'est aussi un biais de créer comment, une communauté autour du journal qu'on néglige, mais aussi bon, peut-être par une forme d'épuisement de temps en temps, parce qu'on n'est pas nombreux et on n'est pas rémunéré. Donc on est un journal de chômeurs à la base, c'est aussi ça l'une des identités en gros du canard. Donc voilà, donc on a beaucoup de retours d'invendus, mais en même temps on se dit que voilà, il y a dans cette logique là des kiosques, si on tire à 40 000 on serait plus visible, donc on vendrait peut-être à 4 000, enfin il y a une logique comme ça qui est comptable.
C'est-à-dire qu'en gros, tu es obligé de tirer, si tu dis que tu as 3-4 000 lecteurs et tu tires à 14 000, ça veut dire que tu as 10 000 exemplaires, t'en fais quoi?
Il passe au pilon. Mais si tu veux, c'est encore pire dans la presse, dans les gros titres. C'est-à-dire qu'un journal comme Charlie Hebdo, il doit tirer à 100 000 pour en vendre 60 000. Donc ils ont une perte de 40 000. Donc c'est encore plus on monte dans les grosses diffusions, dans la presse officielle, Le Monde, ils doivent tirer un million pour en vendre je sais pas combien. Enfin, j'ai oublié les chiffres, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur là, quoi. Donc c'est un gâchis de papier énorme de toutes les manières. On culpabilise beaucoup par rapport à ça. Non, mais même à l'imprimerie, c'est un gâchis de papier. Donc, mais bon, si on part de là, on fait rien. Ouais, et encore. C'est du carbone aussi. Donc voilà quoi, du point de vue d'un journal comme ça qui cherche une visibilité, qui cherche aussi à correspondre à quelque chose une époque qui par ailleurs est assez anémiée d'un point de vue des mouvements sociaux à mon avis, mais encore que voilà, mais voilà, je passe.
Est-ce que je sais pas. Qui veut prendre la parole la prend, mais il faudrait pas croire. Bon, là, il y a Adrien pour article 11, il y a différentes personnes. Il ne faut pas que vous croyez justement le but de cette discussion, c'est aussi de rassembler ceux qui tirent à beaucoup d'exemplaires et ceux qui tirent à 100 en photocopie. C'est pas du tout d'avoir des rêves de grandeur ou des complexes d'infériorité ou je ne sais quoi. C'est aussi de se dire qu'on arrive à faire une presse différente, quelles que soient les choses, et que est-ce que c'est vraiment la peine de faire des milliers d'exemplaires pour se prendre des fours en passant par les messageries de presse? Là, je crois qu'Anatole a bien posé le problème. Je sais pas, qu'est-ce que.
C'est pas des fours, hein. Enfin, c'est le système qui. Où tu tires 4 fois plus que ce que tu peux toucher comme lectorat. Quoi. On n'est pas. Parce qu'article 11, c'est les mêmes ordres de grandeur, enfin, sauf que ça commence juste, mais on n'est pas déficitaire, tu vois. Et ça permet de continuer.
Je vais rajouter 2-3 éléments, on va en parler, hein, mais bon, moi je m'occupe d'une maison d'édition, donc j'ai un autre regard qui est celui du livre. C'est quand même, on se pose les mêmes questions. Je me suis occupé d'un formule pendant longtemps aussi. Avec quelques camarades, j'en recrée un autre. D'une façon générale, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on définit comme presse indépendante, underground, alternative. Que ce soit le bouquin ou la presse, tu ne peux pas vivre en France de ça, sauf si tu as une subvention dans le cadre du livre du CNL ou un marchand d'armes qui te subventionne, ça c'est pour Editis, l'édition à découvert. Je mélange à dessin, presse et. Presse et édition.
J'ai bien fait de garer ma Porsche dans la rue à côté.
Ouais, t'as bien fait de la garer assez loin. On voit bien qu'article 11. Soit pour article 11 ou CQFD, vous m'arrêtez si je dis des conneries, mais les tirages sont honorables. Bien sûr, ça bouillonne à 70 ou 80%, ce qu'on appelle le bouillon, c'est ce qui part au pilon, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde intègre, parce que de toute façon, tes ventes souvent te permettent les bénéfices sur les ventes te permettent de compenser le prix de l'impression. Ça coûte pas cher du tout d'imprimer un journal comme ça. Ça doit vous coûter...
2500 euros.
Ça coûte 2500 euros pour en...
Combien d'exemplaires ?
15 000.
Pour 15 000 exemplaires.
C'est une micro de couleur. Sachant que la couleur bleue, c'est le même prix que le noir.
Donc il y a vraiment deux...
C'est bon à savoir.
Il y a vraiment deux débats qui se superposent. Soit tu fais un objet qui est quasiment un objet d'art, comme Chéri Bibi, à périodicité aléatoire, parce que tu peux pas sortir un Chéri Bibi tous les mois, ça demande trop de travail. Ça demande trop de travail au sens où tu ne peux pas vivre de Chéri Bibi même si tu en vends 3000, parce que tu peux pas matériellement financer de quoi payer ton loyer à la fin du mois en sortant un Chéri Bibi par mois. Enfin bon, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Soit on est dans une sorte d'artisanat, dans tout ce que ça a de noble, faire un bel objet, essayer de le diffuser par les réseaux de copains, trouver des points de diffusion alternatifs, il en existe pas mal, soit on se dit, on va essayer d'intégrer les instruments de la bourgeoisie. Les instruments de la bourgeoisie, c'est clairement le réseau Presstalis et les messageries lyonnaises de la presse. Donc les kiosques. En fait, la vraie question fondamentale, c'est de savoir quand on va arriver à créer ce qui existe ou qui a pu exister dans l'édition, à savoir un réseau, une coopérative de diffusion en kiosque qui serait une coopérative proche de ce qu'on défend nous, à savoir le refus du profit, le refus de la publicité, tout en arrivant à rémunérer. Ce mot peut peut-être choquer certains, mais quand tu passes tout ton mois au local de CQFD, là ils sont... Ils n'osent pas le dire, mais au local de CQFD, qui est un grand local à Marseille, ils sont plus que deux.
Pas un grand local, oui. C'est...
Ouais, ils ont un grand local, ils sont deux ou trois. Avant, c'était une ruche, ils étaient bien plus nombreux, parce qu'ils sont tous obligés d'aller au taf pour payer le loyer, pour remplir la gamelle. Donc,
c'est pour y voir.
Non, mais... quand on discute avec les camarades d'Article 11, c'est exactement la même chose. Ils passent un temps fou sur le journal, à tel point qu'ils ont un peu délaissé le site. Avant, c'était d'abord et avant tout un site, ils écrivent un tout petit peu moins sur le site. Ils passent beaucoup de temps sur le journal, mais ça règle pas la question de savoir comment tu vis. Soit tu es rentier et tu peux te permettre d'éditer tous les journaux militants, partisans, contre-culturels, culture populaire, etc. Tout va bien. Soit tu as besoin, à un moment donné, d'aller remplir ton assiette et tu vas être obligé de délaisser le journal. Donc on est vraiment dans entre deux. En termes de diffusion entre guillemets bourgeoise et large, c'est pire en pire puisque Presstalis a augmenté ses tarifs dernièrement, ça vous pourriez peut-être en parler. Ce qui fait qu'il y a toute une partie de la presse militante, là je parle pas de presse, je parle pas de fanzine qui sort tous les 3, 6 ou 9 mois. Je parle de la presse qui militante qui peut sortir toutes les semaines comme le Monde Libertaire par exemple, tous les mois comme Alternative Libertaire, qui se pose la question de cesser d'aller en kiosque parce que ça coûte trop cher. Courant Alternatif, qui était une publication qui allait en kiosque, a décidé de s'en retirer. Ça coûte une fortune. Donc vraiment, là, une des questions importantes des mois qui viennent, c'est de se poser avec.
Parce que tu veux dire que c'est une nouvelle situation
Oui, c'est récent.
Il y a un héritage de la Seconde Guerre mondiale qui permettait à des petits journaux de rester en kiosque. Cet héritage-là, il se perd, comme tout un tas d'autres acquis, mais on va... pas trop parler de ça, il se perd au profit de
on dirait vraiment que c'est une stratégie de liquidation des titres qui sont pas rentables, qui jouent pas le...
Alors que pourtant,
ça ressemble du fonctionnement général du système, de toute façon, faut pas se leurrer là-dessus. Faut pas croire qu'on est dans un bocal et que quand il y a la tempête, on va pas se prendre le rocher comme tout le monde.
Donc dans le livre, il se pose plein de questions. Dans le monde du livre, tout le monde dit le livre, que faire, comment s'en sortir, comment faire pour que les livres soient... diffuser ne touche pas que les convaincus, ceux qu'on va croiser par exemple dans les concerts que pour, ceux qu'on va croiser dans les manifs. Alors mais il y a une réalité quand même des dernières décennies, c'est que jusqu'en 85-89, il y avait des structures partisanes. Par exemple, il y avait des journaux militants qui pesaient davantage que ce qu'ils pèsent aujourd'hui. Il y avait des maisons d'édition militantes. Bref, si on parle par exemple de cet empire qui était le Parti communiste, il n'y a plus de maisons d'édition liées au Parti communiste aujourd'hui. Il y a des maisons d'édition proches du PC. Les éditions à dispute, par exemple, mais il n'y a plus de maisons d'édition structurellement liées au PC comme ça a pu être le cas avec les éditions sociales.
Donc il s'agit de tout recréer, tant pour la presse que pour l'édition. Alors l'édition est un peu moins mal en point que la presse, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, notamment, on a parlé tout à l'heure, Cohérence, qui était un projet qui visait à diffuser notamment les éditeurs militants, les éditeurs engagés, les éditeurs indépendants. Et puis il reste la petite structure Court-Circuit, qui est une structure qui va dans les 200-250 librairies un peu réceptives de France et qui place des bouquins au ton dissident.
Mais, pour la presse, il y a aussi Difpop, mais c'est pareil.
Mais Difpop, c'est surtout pour les librairies, surtout des revues en librairie. Or, les gens qui sont susceptibles de lire Le Tigre, Article 11, CQFD, tu les trouves pas qu'en librairie, bien heureusement, tu les trouves partout. Donc il faut repenser les modes de diffusion alternatifs militants, dans la rue, dans les manifs, dans les espaces militants, dans les infokiosques, dans les concerts, partout, et quelque chose de plus professionnel. Donc plus professionnel, ça veut dire faire du commerce. Faire du commerce de presse alternative, en se disant que c'est peut-être mieux que continuer à publier en ayant l'aide de l'État, parce qu'il y a plein de revues qui sont aidées.
Mais de toute façon, ça, c'est cette situation-là en train d'évoluer, pas seulement au niveau de la musique, enfin des fanzines, de la diffusion. Elle est en train d'évoluer aussi très très nettement au niveau de cette espèce d'impression qu'on est exempt. En fait, c'est que notamment, tu parlais des groupes de presse, c'est ce qui est en train de se passer au niveau des affiches, au niveau de toutes les salles. Qui ont des missions de service public, de diffusion de la musique, ce qu'on appelle un temps de musique amplifiée. L'exemple pour être 47, c'est qu'actuellement il y a un groupe qui est Clear Channel qui est en train de racheter toutes les missions de service public de diffusion de musique actuelle dans les, ce qu'on aurait appelé les salles paramunicipales de toutes les communes en Belgique. Et actuellement il y a une énorme offensive de ce groupe lié à Clear Channel, dont j'ai oublié le nom, qui est de dire d'aller voir les mairies, les conseils généraux, etc. Leur dire bon voilà, vous êtes lié à des associations dans lesquelles vous avez des membres dans les conseils d'administration. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire cette mission de diffusion culturelle, mais beaucoup moins cher, puisqu'évidemment on est rentré dans le champ concurrentiel. Et donc moi ça me fait penser à cet exemple-là, qui est que bientôt on va se retrouver avec d'énormes groupes comme par exemple Clear Channel qui sont à la fois afficheurs, qui sont en train de racheter des maisons de production de disques, des boîtes qui font du merchandising pour les groupes qu'ils signent sur leur propre label, ce qui fait qu'en fait eux ils sont en train vraiment de monopoliser complètement la chaîne de production, fut-elle alternative à l'époque et indépendance. Le meilleur exemple qu'il y a par rapport à cet exemple à laquelle ça me fait penser, c'est Tiken Jafakoli, qui est quand même un des porte-parole, on va dire, culturel d'une certaine critique de la France-Afrique, est rentré dans ce groupe-là, donc se retrouve pieds et poings liés.
Oui, enfin, faut pas surexagérer non plus l'engagement de
Jafakoli. Non, mais c'est un exemple, tu vois. Mais
moi, je l'ai vu dans un concert qui est organisé pour les attachés culturels, les ambassades de France, quoi. Et où il sentait sa débectance de la France-Afrique. Il y a un moment, c'est du marketing, ça.
Ouais, mais bon, si tu veux à l'inverse, tu vois. Non, mais c'est pas contradictoire.
Non, mais c'est pas contradictoire, mais si tu veux, le problème.
Je ne me permets pas de dire
ça. Non, juste un truc, je vais recentrer un peu parce que on est d'accord que tout est lié et la discussion pourrait dériver sur la bouffe alternative et la musique et le cinéma et tout ça.
Oui, tout est lié.
L'idée, bien sûr, tout est lié.
Et sur les structures générales,
bien sûr, tout est lié on sait très bien, je crois qu'il n'y a personne ici qui est naïf sur le genre de système qui fait de la marchandisation et qui transforme tout en produit. Mais à un moment donné, l'idée quand même, c'est de voir qu'on reste, si possible, chers amis et intervenants, centré sur la presse, même si, c'est vrai, comme l'a dit Nico, on arrive avec l'édition quasiment des similarités. Voilà, puisque bon, certaines. Il faut savoir qu'une revue, par exemple, est souscrite à la même TVA que le livre, ce qu'un magazine n'est pas.
Non, une revue, c'est 18,6 et un livre, c'est 5,5.
Bah alors pourquoi on est à 5,5 avec le cher Yves?
À mon avis, il y a certainement de l'équipe qui a quelque chose qui.
Après, on est pas mal resté sur les histoires de diff, mais parce que c'est pas mal des nerfs de la guerre, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, les expériences de journaux qu'on a là, commence à petite échelle en fait, et il y a, y a tout un travail. Par exemple là, Article 11 en fait à la base, donc c'est un site internet de contre-information. Et les copains ils ont fait un énorme boulot en allant rencontrer des gens comme CQFD, des gens du Tigre, etc. Des gens qui donc avaient de la bouteille dans l'expérience kiosque, l'expérience de diffusion à plus grande échelle que de l'autodiffusion quoi. Et c'est de ça qu'est né le projet doucement, en sachant, en allant réfléchir qu'est-ce qui était le moins cher pour imprimer, tel nombre d'exemplaires, quel système de diff, etc. Et donc ça s'est fait petit à petit avec des énergies bénévoles qui sont vraiment proches du Fanzina, pour au final arriver donc à une version kiosque quoi, comme CQFD, pas mal inspiré de l'expérience de CQFD sur le kiosque, mais en cherchant une spécificité, avec la spécificité de l'article 11, plus ce qu'on a amené nous sur la maquette.
Là, juste.
Mais du coup, c'est des énergies qui sont proches en fait, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Je vois, parce que là, il y a plusieurs. Bon, il y a le Tigre, je crois que c'est intéressant parce que c'est une expérience assez unique aussi. Il y a Hey qui vient de commencer avec un objet quand même qui est très très beau, enfin très très luxueux, qui. On parlait aussi de. Une revue plein de couleurs, etc., qui doit coûter un bras, qui est quand même diffusée, qui est une diffusion au moins en librairie, je crois.
Ça vient là.
Braille.
C'est pour ça que t'acquiesces. Non, je disais, il y a différentes expériences, mais ce serait bien justement de ne pas voir qu'on se restreint sur cette histoire d'accessibilité aux messageries de presse. Moi, j'ai toujours l'exemple de Shanghai Express. J'ai rencontré les gens il y a quelques années qui avaient fait Shanghai Express. C'était une revue de polar. Et pareil, personne n'était rétribué. Ils avaient un bon esprit. Ils avaient des potes écrivains comme Jean-Bernard Puy, activiste pour le coup de la littérature polar et tout, qui ont donné des nouvelles gratuites, qui ont bossé... de manière militante, certains diront bénévole, moi je préfère militante comme terme, mais bon. Et puis ils ont sorti, on discutait avec je me rappelle plus son nom, mais la personne qui l'avait lancé, ils ont sorti, je sais plus, un peu moins d'une dizaine d'exemplaires, je crois, de numéros. Et puis c'était presque caricatural, alors je schématise peut-être, j'ai plus souvenir exactement, mais le numéro 1, ils l'ont sorti en kiosque à je sais plus combien d'exemplaires, tout couleur. Voilà. Le numéro 2 ou 3, il n'y avait plus qu'un cahier couleur à l'intérieur, couverture couleur, et puis un peu moins d'exemplaires. Le numéro 4 ou 5, il était tout en noir et blanc avec une couverture couleur, puis encore un peu moins d'exemplaires, puis après ils sont pris un four. Nous, l'idée, là, pour reparler du Cheribi avec Lionel notamment, qui a la dure charge de toute la diffusion et tout ça, on essaye de se fédérer, mais on s'est dit on va commencer petit à petit. Et puis quand on arrivera à 8000 exemplaires correspondant à peu près 6 ou 7000 ventes par numéro, là on pourra peut-être voir quel réseau on aura construit et puis rester dans ces réseaux-là, soit aller justement changer le rapport de force avec des gens qui sont quand même que des marchands. Donc si on leur propose un truc qui va leur apporter du blé, des mecs qui sont prêts à diffuser des enregistrements pirates de Che Guevara, on s'en fout, du moins ça leur apporte du blé. Hein, voilà, les éditeurs, excusez-moi, les films de Guy Debord, ils ont été édités par Common. Les mecs, ils se tirent une balle dans le pied, ils s'en foutent, ça leur apporte du blé. Bon, donc vous savez très bien que c'est les capitalistes qui vendront la corde pour les pendre. Donc à ce niveau-là, établir un rapport de force, c'est important parce que. Quel que soit le type de choses qu'on veut faire, il y a des gens, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un fanzine qui est consacré à la bicyclette. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est fabuleux. Je suis un fou des bicyclettes, mais je trouve ça fabuleux. Et à un moment donné, l'accès à une presse qui soit une presse faite par passion, par envie, par désir, je veux dire, je suppose. Anatole ou Nico me contrediront peut-être, je ne vais pas parler à leur place, mais à un moment donné, même quand tu fais un canard politique pour dénoncer les injustices de ce monde, si tu as choisi de le faire par le biais d'un canard, c'est quand même que tu as une passion pour le papier, pour l'objet journal, pour le fait de sortir un canard, et puis que quand ça sort de l'imprimeur ou de la photocope, t'es émerveillé comme un gamin devant ton objet, même si ça parle de bicyclette ou de lutte sociale. Voilà. Donc à un moment donné, ça, ça nous relie tous. Je veux pas mettre justement je dis ça, c'est pour que ça dérive pas uniquement. On ne croit pas que c'est uniquement une discussion sur les gens politiques, parce qu'on est tous, et c'est là où je dis qu'on devrait tous se rassembler. Elle est super belle, la revue, vous pouvez en parler aussi. Comment vous êtes arrivé, par exemple, à sortir une revue tout en couleur peut-être parler même, puisqu'on est entre nous, de combien ça peut vous coûter ou comment vous arrivez.
Écoute, je vais faire le résumé rapidement. Quoi. Hey, c'est une revue qui est utilisée aujourd'hui en librairie. Donc nous, j'ai rencontré Marsu, il faisait 80 ans du Fonzie. On a fait 15 ans de journalisme pour des généralistes, radio, télé, presse avec Anne. Et puis le jour où on a eu envie en fait de monter notre truc à nous, on a été chercher un éditeur et on lui a proposé un deal. On lui a dit on prend un deal que d'un an avec vous. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est un an. Donc on a un contrat d'un an en fait qui est re-signé à chaque fois avec un éditeur. C'est-à-dire que s'il nous plaît pas, s'il nous plaît plus, si on lui plaît plus, on se casse, on fait autre chose, c'est fini quoi. Voilà. Donc l'idée qu'on a monté ES, c'était de se dire, déjà on échappe, de par ce qu'on connaissait, tout ce qui était réseau de distribution, NMPP, MPP, la totale, on ne pouvait pas y aller. On ne sortait pas ES pour se retrouver dans un réseau de distribution de kiosques, parce qu'on savait que sinon c'était le bouillon en un numéro et qu'on était obligé d'en imprimer 30 000 pour en vendre 5 000. Donc on a décidé au départ avec le projet de passer par une diffusion qui est uniquement librairie. C'est super, ça marche, etc. La problématique que A peut avoir aujourd'hui, par rapport au public qu'elle veut toucher, c'est qu'elle va être effectivement distribuée sur des librairies militantes, etc., comme à la FNAC ou autre chose, etc. Mais il y a tout un réseau de distribution auquel la revue échappe aujourd'hui et sur lequel elle devrait avoir sa place, parce que justement, on a pris ce parti pris au départ d'aller chez un éditeur. Et tu dépends en fait, à un moment, chez un éditeur, c'est là où ça devient une problématique aussi, quoi. Du diffuseur quoi, qui de toute façon tient un monopole à une mainmise. Une fois que tu es dans cette direction là, c'est très très difficile en fait d'ouvrir d'autres possibilités pour des gens d'avoir accès à ta revue quoi. Donc là on est obligé en fait l'éditeur à faire de la vente directe, ce qu'il faisait pas avant sur une revue comme S, c'est à dire que n'importe qui, sans vouloir aller à une librairie, sans vouloir se déplacer, peut maintenant acheter la revue. Ça nous a pris exactement 6 mois. Quoi. Donc tu y vas avec les rames, tu essaies de leur faire comprendre autre chose, de dire qu'il y a des marchés différents qui existent, qu'il y a des réseaux de distribution. Si un jour on veut rentrer sur un marché, sur un réseau fédéré, finalement, d'indépendants, comme vous, ce que vous faites en presse, etc., là on rentre dans une autre problématique, c'est-à-dire qu'il va falloir que je redeal avec mon éditeur, avec mon diffuseur, d'avoir la liberté de créer en fait ma liberté d'aller ailleurs. Donc je ne sais pas s'il y a une solution en fait qui est mieux que l'autre, etc. On tire 10 000 exemplaires pour le monde. On est bilingue, hein, c'est pour ça qu'on en tire 10 000. Voilà. J'ai des réseaux de distribution qui sont juste en train de s'installer, par exemple sur les États-Unis, etc. et qui passent que par des réseaux alternatifs. D'indépendants, de mecs qui viennent chercher les revues, au cul du camion, qui les emmènent. Distribue de façon indépendante dans les pays anglo-saxons. Mais je veux dire, on n'est pas dans une solution idéale voilà, de distribution. Par contre, l'avantage aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on est complètement indépendant, même vis-à-vis de notre éditeur. Là, je veux dire, jamais il va mettre son nez dans la coupe, jamais il va mettre son nez dans le contenu, j'ai pas une page de pub, et je fais un objet qui est un objet livre. Mais la difficulté de ça aujourd'hui, c'est que je ne fais aucune confiance, en fait, et je crois que le monde contemporain est en train de nous montrer, au réseau de distribution préétabli en kiosque. D'un autre côté, on en a besoin, quoi. Et on a vu que, même avec le livre, type le comptoir des indépendants, quoi, on a une difficulté quand même à diffuser des productions indépendantes. Hein. Que ce soit pour le Tigre, que ce soit pour tout le monde, ça a été quand même... Le Tigre, ils ont fait un super boulot pendant des années à se déplacer chez les kiosquiers, à s'installer, un truc comme ça. En tant que journaliste, moi j'ai défendu le Tigre depuis le départ. Ça ne veut pas dire que le public est venu chercher le Tigre. Moi là, je l'ai défendu. Et je suis exactement dans la même position aujourd'hui qu'a été le tigre à un moment. C'est-à-dire à un moment, on est dans une espèce de compromis permanent avec les systèmes qui existent, la façon dont tu peux rester indépendant et libre, et la façon de pouvoir t'y engouffrer ou pas.
Tu peux parler très longtemps de la passion que tu as mis et tout ça, machin. Et il y a un truc auquel tu ne peux pas échapper, en fait, c'est la discussion politique autour de ça, c'est-à-dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, les réseaux et les diffuseurs. Et quoi qu'il arrive, les diffuseurs, donc nos amis là, on t'avait de façon ultra correcte, en fait, l'idée du truc, quoi. Que tu essayes de te faire lire à 100 exemplaires, à 10 exemplaires ou à 10 000. En fait, à partir du moment où tu as une parole un peu singulière, on est dans la merde face au gros, quoi.
Là, tu as fait un truc qui... C'est que vous avez fait un... Ça, ça m'étonne, parce que vous avez fait un deal d'un an avec un éditeur. Parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir bossé en tant que journaliste pigiste pour L'Affiche, fondée par Olivier Cachin.
Pas fondée par Olivier Cachin.
Il a été un peu le rédac chef et tout à ce moment-là, et c'était la rivière.
C'est la deuxième équipe de
La deuxième équipe. La première équipe, en fait, c'est ça qui est marrant avec, avec ce canard, c'est que c'était des gens qui avaient un plan d'imprimerie en béton armé.
Ouais.
Et ils organisaient des concerts, c'est eux qui ont fait le concert des Berlus à l'Élysée Montmartre, par exemple. Et ils se sont dit, tiens, comme c'était des farronards, on va faire un support de pub et en même temps de communication sur ces trucs là. Et après ça, en fait, c'est devenu hip-hop à partir du moment où Cachin est arrivé. Mais il y a eu une longue période que tu as dû zapper, qui était vachement plus truc de terrain, c'est-à-dire parler de la scène.
À la fin, et moi, juste pour te dire, c'est que c'était les éditions La Rivière qui avaient racheté
Rock'n'Folk.
Moto verte, Rock'n'Folk, Voix les plaisances, Plancher,
Siameto,
enfin toutes ces conneries.
66.
Et ils ont été. Ils ont vidé le dernier numéro où j'ai participé. Alors, série machin, c'est peut-être pas ma faute, hein, je pense. Hein, mais bon, ils ont vidé toute l'équipe.
T'as des chanteurs morts quand même. Hein.
Ouais, voilà, c'est vrai que j'ai des chanteurs morts, peut-être un journal aussi, mais bon. Mais ils ont vidé tout le monde. Et c'est-à-dire que le proprio. Et nous, on a pensé au début, quand on a vu faire une nouvelle formule de Cher Ubi. Alors, déjà, on a fait un dépôt légal à la BNF, ce qu'on ne faisait jamais avant. Enfin, on a pris nos précautions, on est allé voir les héritiers de Gaston Leroux. Bouffer dans leur gastos pour tchatcher du truc pour qu'ils nous fassent pas chier avec le nom, etc. Alors qu'avant, on s'en branlait. On a pris un peu nos précautions pour pas justement qu'il y ait des ennemis de classe qui nous attaquent par ces biais-là. On a un peu blindé de chaque côté, une batte de baseball près de la porte, on sait ce que c'est. Et à un moment donné, moi j'avais souvenir là parce qu'il y a, on a eu à un moment donné, je connais des éditeurs, il y avait enfin, des gens qui sont en édition. Discussion effectivement de voir bah tiens il y aurait comme vous une édition un éditeur qui nous prendrait sauf que je me voyais pas j'avais encore cette image de ce qui était arrivé à Cachin même si c'est pas lui qui a fait le truc il était bien dégoûté je peux le dire à ce moment là je me disais putain t'imagines tu,
oui, il a tendu le bâton pour faire battre franchement
oui non mais peut-être je connais pas les détails c'est pas mon pote de 15 ans donc ce qui lui est arrivé, les mecs à un moment disent bah maintenant c'est nous qui sommes propriétaires du titre, des moyens, des trucs et tout. Et un autre exemple dans la presse de trucs soi-disant avec des gens sortis de nulle part qui font un truc, c'est le journal Respect. Le journal Respect, là, l'espèce de journal communautaristo, antiracisto, ouais, Respect Mag. Le premier numéro, quand c'est sorti, je m'étais rencardé. Les mecs ont eu un deal avec l'autre marchand d'armes, enfin, ils sont tous marchands d'armes.
La Gardère,
qui, lui, il faisait sa petite danseuse. C'est-à-dire que c'était pas très, le premier numéro était très poétiquement correct, mais bon, il était, ça ressemblait pas trop à ce qu'il faisait ailleurs dans le même style.
Mais ça ressemble, c'est un truc qu'ils ont toujours fait dans l'édition. Hein, dans l'édition, ils ont toujours ce système-là qui est à peu près équivalent. Enfin, moi, je fais souvent le parallèle avec le monde de la musique, mais tu vois, qui est à peu près équivalent à ce que font les majors quand ils lancent des jeunes artistes pour éponger les bénéfices. Systématiquement, les éditeurs, ils te lancent des nouveaux produits. Tu vois, et ça, c'est, bon, en l'occurrence, c'était sur Respect, mais tu as des trucs genre sur n'importe quel sujet maintenant, Poker Magazine, des trucs comme ça. Ils essaient de cibler un marché. Au début, ils vivent en balançant de la pub, et après ça, si ça fonctionne, le truc perdure. C'est-à-dire que s'ils trouvent le marché, le truc perdure, quoi.
Mais culture populaire, là, c'est pas. Il y a eu Culture, le magazine des cultures populaires, ils ont sorti un numéro, test et tout. Et moi, quand on a sorti le numéro 1 du Chahut, ça commençait un peu de diffuser, j'ai reçu un mail nous insultant totalement, disant qu'on avait pompé sur ce truc-là et tout. Et bon, ils avaient ramené du beau monde dedans. Il y avait Jean-Pierre Dionnet qui parlait de je sais plus quoi, il y avait Christophe Beer, enfin des spécialistes quand même de la culture un peu bis, rock'n'roll, tout ça. Il y avait Daniel Dark et tout ça, il y avait même, comment il s'appelle, Michel Drucker qui parlait de la S Saint-Etienne. Et il y avait des pubs, la quatrième de couverture c'était une pub pour BMW, il y avait marqué une autre idée du luxe. L'intérieur c'était des pubs pour les parfums Dior, enfin vraiment public ciblé, laisse béton quoi. Et quand il y avait, j'aurais dit mais c'est pas votre culture populaire quoi, vous, c'est des pubs pour une autre idée du luxe, salut quoi. Et c'est évident que les mecs seraient très contents, je suis sûr, d'aseptiser tout ça et
en même temps, sur la notion de culture populaire quand même, il faudrait un peu creuser le sujet parce que quand on parle de culture populaire, depuis tout à l'heure on a parlé beaucoup d'objets. À une époque où il y a le net qui fait quand même énormément du boulot, on s'aperçoit que finalement les gens, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils n'achètent pas forcément les choses pour le contenu, ils achètent beaucoup pour le contenant. C'est pareil pour la musique, c'était un bel objet, tu verras plus facilement que c'était un truc avec de la bonne musique mais avec un contenant pourri. Et à une époque où tu as une disparition d'un middle class grosso modo et une schématisation entre de la culture censée être populaire qui est du dumping de base, Euromarché, et puis une culture entre guillemets d'élite qui est soit du luxe, soit une culture de niche, il se trouve que le fanzina il rentre dans la culture de niche en question. Et là c'est problématique parce que à partir de quel moment on fait juste du collector? À partir de quel moment c'est quelque chose qui est censé justement recouper la vocation sociale que le fanzine peut avoir, c'est-à-dire d'apporter un plus au niveau de la pensée sociale, au niveau du vecteur de la culture underground? On se pose des questions. Vous voyez quand même, une chose qui m'a apparu flagrante, c'est que la plupart des fanzines que j'ai vu apparaître récemment, qui avaient pignon sur rue et qui étaient reconnus comme tels, ils étaient rarement pour leur contenu, ils étaient surtout pour la forme. Genre c'est bien écrit ou c'est bien fait. Mais rarement ça parle des bons. Oui, attends, j'entends bien. Mais à la base, un fanzine, c'est un truc de gens qui parlent de ce qu'ils aiment. Ça n'a pas besoin d'être un truc extrêmement bien écrit, tant mieux si ça l'est, ni extrêmement bien mis en page. Alors là, on se rapproche vers les objets qui sont les objets d'art. Et je ne sais pas du tout comment on se fait. C'est juste qu'il y a un moment, il faut se positionner de manière juste lucide et voir ce à quoi on correspond.
Oui, mais tu peux, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, après, pas surtout parce que je pense qu'il y a plein de gens, encore une fois, qui se sont intéressés, pour prendre l'exemple du chez Alibi. Qui se sont intéressés parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de fanzine. Et machin, il y en a plein qui me disent c'est un fanzine, un livre, maintenant ça s'appelle une revue, d'autres qui appellent ça un magazine, on s'en branle, voilà. Après, c'est interdit. Après, nous on a fait un choix par exemple, sur la nouvelle formule secrète là, c'est qu'il n'y ait pas de logo. Le titre, il y a une typo différente. Après, c'est à moi de me démerder graphiquement pour qu'il y ait une identité entre guillemets graphique à la couverture qui fasse que je reconnaisse que c'est un numéro du Chéri Bibi. Mais hors de question de créer un logo Chéri Bibi et boum, chaque numéro, boum, comme ça, parce que j'emmerde les logos qui transforment tout en marque, les villes, les institutions, tout est transformé en marque parce que les mecs se font leur bon logo.
C'est vachement honorable, mais en même temps, le gros du public est conditionné par la notion de marque. Hein. Et ça marche
une compétition. Oui, mais on combat pas l'aliénation avec des produits aliénés, hein, avec des moyens aliénés. Hein. C'est juste ça. C'est qu'à un moment donné, tu après, chacun, il y en a d'autres qui s'en foutent ou je sais pas quoi. Mais bon, il y a eu des logos. On pourrait dire que Black Flag aussi a un logo, tu vois. Mais
ouais, c'est exactement. Pas.
Mais à un moment donné.
C'est le principe de base. Donc.
Ça doit être quelque chose, que ce soit bien, entre guillemets, mal écrit, bien maquetté et compagnie. Ce qui compte, c'est ce qui est dit, on parle de choses qu'on aime. Donc justement, les gens, les gens, ils vont pas faire la démarche de l'acheter pour un logo. Justement, on n'est pas Coca, on n'est pas ministère de la Défense, on n'est pas tout ce qui est nouveauté. Ils vont pas se référer à, voilà, je vais acheter Chéri Bibi ou n'importe quelle fanzine, parce que de toute façon, c'est ça, c'est... Moi je le vois, il y a un truc qui me plaît, tiens, c'est Chéri Bibi. Voilà, ils ne vont pas réfléchir en termes d'image, mais en termes de contenu et de diffusion d'infos et se repérer à ça plutôt que justement à un logo.
Je suis d'accord avec toi dans le principe, si tu veux. C'est vrai que ça désaliène les gens. À part ça, des fois c'est bien de se faciliter la vie en défonçant les portes ouvertes.
Et juste justement, là, bah, le tigre, on peut peut-être en poser aussi, parce que il y a eu plusieurs...
Plusieurs logos.
Non, le logo, bah, d'accord, ok, on va pas.
Mais plusieurs vies, ouais.
Non, mais tu vois, et puis le tigre, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu, j'ai dit, c'est quoi ce truc, je comprenais pas comment ça marchait, en plus. Il y a David Poulard qui a fait cette typo, le chéri Bibi, qui maintenant fait de la typo pour le tigre. Hein. Enfin, mais ça aussi, c'est intéressant de voir comment vous n'avez pas hésité à changer de format, de machin. De...
Et ça, c'est toute l'histoire du tigre. Après, j'ai bossé pour le tigre pour la, justement en diffusion. Donc, brièvement en tant que salarié, mais c'est pareil, le tigre, c'est un truc de militant. Donc, je suis pas dans les créateurs du tigre, mais par contre, je connais bien l'histoire parce que j'ai lu dès le premier numéro. Donc ouais, c'est né en hebdo, et en fait c'est surtout né par donc Raphaël Metz et Titia Bianchi qui avaient une revue en librairie, Air de Réel, qui avaient l'ambition de s'amuser un peu avec le savoir universitaire qu'ils ont plutôt côtoyé de près, et qui est cultivé, enfin c'est génial de découvrir des trucs, avec des gens doués, tout ça. Et leur idée était déjà de sortir de ce milieu universitaire des contenus extrêmement riches qui sont réservés à une petite niche, quoi. Donc ils ont fait une revue rigolote, bien maquettée, avec des jeunes auteurs et tout, et puis très vite, ils ont eu envie de s'attaquer à la presse et pour le coup directement au kiosque parce que en tant que lecteur c'est aussi c'est pas que ce soit un symbole le kiosque mais c'est le truc grand public où tu vas chercher les journaux quoi. Et si on a envie que les journaux papier continuent à exister, on a envie qu'il y ait quelque chose d'un peu excitant dans ce milieu là, il n'y en a pas beaucoup des titres différents. C'était pas un défi, mais leur envie c'était de dire plutôt que de critiquer ce qu'il y a, on va faire un truc la presse qu'on a envie de voir quoi. Et donc ça a été un hebdomadaire fait entièrement sous logiciel libre, autant pour des raisons de sous que de militantisme des logiciels libres, quoi, histoire justement de ne pas non plus se faire attaquer parce qu'on a des logiciels craqués. Et puis peut-être aussi pour le défi de dire c'est possible de faire un truc pro avec des logiciels libres. Et donc ça a été un hebdo, ce qui était le truc le plus suicidaire au monde, un magazine en noir et blanc, sur papier journal recyclé, donc gris, imprimant un peu en gris sur gris, ce format-là qui était rangé au 5e rang chez les kiosquiers, donc en 6 mois, ils ont perdu tous les sous qu'ils avaient réussi à glaner auprès des quelques gens un peu riches qu'ils connaissaient. Mais ils n'ont pas perdu l'envie pour autant, en fait. Donc c'est reparti en mensuel, parce que c'était simplement quelque chose d'un peu moins fou en termes de temps de travail bénévole, parce que faire un hebdo, c'est quand même fou. Et en termes de rythme commercial de la presse. Parce qu'effectivement, ils sont passés par les NMPP au début, qui fait payer les retours, le pilon, et si on veut récupérer, on paye encore plus cher que si on veut pilonner. Donc un mensuel, c'était moins risqué. Et après un an d'épuisement relatif porté par ces deux personnes mensuelles, la décision de faire un truc un peu plus grand public, industriel, donc régulier, avec des bases images en couleur dedans, un grand public pour le tigre, c'est relatif, des tigres tout petits, tout ça, mais l'ambition de toucher, à développer, l'ambition de ne pas prendre les gens pour les cons, quoi. Parce qu'effectivement, c'est un journal qui est militant dans son fonctionnement, mais dans son contenu, je pense qu'il a un spectre de lecteurs assez large. Y compris politiquement, bon, c'est pas un journal de gens de droite, mais ils trouvent des trucs, qui prend.
Et comment vous avez réussi à avoir des salariés, en fait?
En fait, il y en a une actuellement, qui est la secrétaire de rédac, qui est salariée à mi-temps. Moi, je l'ai été pendant un an et quelques, le temps de faire un peu, rendre visible le titre. Réussir à avoir des salariés, c'était parce que le titre a fini par s'équilibrer sur le trimestriel, enfin en réinjectant des sous des actionnaires. C'est une SRL et des subventions de la région Île-de-France qui aident les revues, donc là-dessus, une subvention sur le site internet parce que le tigre met tout son contenu sur le site dès que le numéro n'est plus en kiosque, donc c'était une façon de pouvoir démarrer quoi. Et en ce moment, tant que je sache, je ne suis pas au jour le jour, mais ça s'équilibre avec une location de bureau pas trop chère, une salariée à mi-temps pas payée bien cher non plus. Et les ventes des abonnements et des kiosques, parce qu'évidemment, il n'y a pas de pub. La région, la sud de la région, je ne sais pas du tout ça en elle.
En fait, c'est ça qui est important, c'est ce qui nous relie tous, quelle que soit la structure qu'on a choisie pour exister, en fait, c'est le no-pub, quoi.
Ça fait partie de la liberté, en fait.
Et ça fait vraiment partie de la liberté, et je pense que ça fait vraiment partie d'un réseau de distribution qu'on pourrait commencer à imaginer. À un moment avec Barcy, là, il y a un truc qui s'appelle la fraction rock terroriste. Moi, il y a Gana, il s'appelait 85-86. Ouais. Il distribuait des Monfanzines et puis des autres à l'époque. Quoi.
Sur Lyon.
Enfin, sur Lyon en particulier. Quoi. Bon, on arrive à avoir des réseaux de distribution, mais les réseaux de distribution sont très très éphémères. Quoi. Parce que de toute façon, être distributeur de n'importe quel
journal qu'on a ici, une fanzine, moi j'avais ce journal quand même, hein, journal. C'est un truc où il y a une vraie difficulté parce que c'est un engagement qui est au départ que militant. Voilà. Et l'arrivée aussi. Quoi.
Puis, donc,
on s'épuise, quoi. On s'épuise au truc.
On recherche tout le temps, enfin les changements de formule, c'est aussi pour ça, c'est le truc anti-commercial au possible. C'est-à-dire ça a été hebdo, ensuite ça a été mensuel, enfin bimestriel, ensuite c'est passé quinzomadaire parce que un des personnes de l'équipe s'est barré, il dit oh, on change tout, est-ce qu'on continue ou pas, nanana. Maintenant c'est remensuel. C'était juste aussi histoire de garder cette liberté, cette envie de le faire. Quoi. Parce que de toute façon, les fondateurs sont comme ça, ils ont très vite l'impression de s'ennuyer, ne serait-ce que si ça marchait un peu trop bien. Alors ce salarié, j'en parle pas. Mais c'est garder la liberté, garder l'expérimentation et puis s'adapter à ce qui est vivable. Quoi. Ils sont pas non plus, ils n'ont pas hypothéqué de maison pour faire ça, même s'il n'y a pas d'espoir d'en vivre dans l'immédiat. C'est faire ce qu'on a envie de faire, offrir cette plateforme de lecture, évidemment rencontrer des lecteurs, des gens, des contributeurs. Mais l'absence de pub, c'était aussi ça dès le début, c'est que si on commence à mettre de la pub dedans, on va être tributaire du tirage notamment, parce que quand on parlait de tirage tout à l'heure, c'est qu'un des discours du tigre quand on demande des tirages, c'est qu'on n'en parle que aux gens qui veulent faire des vidéos, quoi. Histoire de dire ne allez pas tirer à 30 000, ça sert à rien. Parce que quand on se base sur la presse bourgeoise, il y a de la pub dedans, hein, c'est des centaines de millions d'exemplaires, de milliers d'exemplaires, je sais plus des millions, parce qu'il faut justifier la pub, quoi. Parce que ce qui compte, c'est l'espace de pub, c'est la pub qui les fait vivre.
Ouais, juste un peu sur la pub.
Une échelle différente.
Parce que on va peut-être choquer les gens, mais moi, l'Axiom Rock'n'Roll, qui est à peu près tout le monde connaît ici, le canard punk américain, qui est un peu des bits de fanzine actuelle, voilà, ça m'emmerde comme longueur d'onde, qui est gratos aussi, j'ai rencontré les gens, ils sont très sympas et tout. C'est qu'ils font pas de pub ok pour Heineken, pour BMW comme on disait, pour les parfums Dior et tout. C'est une pub de petit label, etc. Mais je trouve, je vais peut-être choquer certains, mais pour moi la pollution visuelle m'emmerde pareil. C'est qu'à un moment donné, on s'est aperçu, on a fait un essai dans le numéro 15, le grand format, il y avait une pub pour Patate Records et une pub pour Crash Disc. Bon, d'une part, on ne savait même pas combien leur demander, d'autre part, c'est pas un truc qui jouait vraiment, puis c'était des potes, puis en plus les disques dont ils parlaient, parce qu'ils avaient orienté leur truc par rapport au chavis, on les chroniquait déjà dedans, et puis une chronique c'est pas une pub, une chronique il y a un avis, on fait confiance au rédacteur, même s'il en dit du bien, voilà, et qu'à un moment donné on se retrouve aussi avec des canards qui sont faits pas dans le marché et tout, mais qui vont reproduire dans une sphère à plus petite échelle, etc., ce truc de la page de droite, hein, vous connaissez, la page de droite c'est plus cher parce que c'est la plus lue. Enfin, vous faites un exercice que faudrait faire dans les écoles de journalisme ou de graphisme et tout. Tu prends un magazine et tout et puis tu repeins toutes les pages de pub en blanc. Déjà tu vois ce qui reste. Après tu t'amuses à repeindre en blanc le publi rédactionnel. Bon, elle, ça doit faire 8 pages à l'arrivée. Faut savoir. Mais bon, c'est à un moment donné aussi, c'est ça, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on préfère une publicité pour un petit label punk dans un canard ? Ou est-ce qu'on préfère que de prendre cette place-là, donc ce quart de page ou ce tiers de page, pour parler des productions de ce label avec un avis voilà. Nous, par exemple, on a choisi, parce qu'on a un vrai problème de place, et puis que les chroniques, c'est un peu l'accordéon, c'est un peu ce qui reste à la fin. Bon, on a choisi de parler que de ce qui nous plaît, par exemple. Et encore, on peut pas parler de tout ce qui nous plaît parce qu'on n'a jamais assez de place. Il y a plein de choses qui nous plaisent. Mais ce serait très intéressant de parler aussi de ce qui nous plaît pas. Donc ça, on pourrait faire. Mais voilà, c'est aussi le rapport à la pub, c'est pas que les gros trusts marchands et tout. C'est un moment comment tu décides de garder ton canard. Voilà,
sans, de rédaction. Quoi. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant ton exemple, parce que ça relève aussi, je sais que moi, en tant que lectrice de fanzine, des fois, je suis contente d'avoir une pub pour un disquaire, parce que tout de suite, je vois, tiens, tel disquaire indépendant, j'avais pas repéré. Donc, il y a une sorte de communauté d'esprit. Enfin, c'est
non, mais tu peux en parler aussi dans le
site. Mais voilà,
quand faire un article sur le disquaire,
c'est pour ça, c'est, de la pub. Ça, je trouve que l'exemple est bon, c'est de se dire, on va parler aussi de son métier, c'est une approche personnelle, et limite, tu l'inclus aussi.
Non, mais le côté pub, c'est qu'en fait, il y a un moment, tu vas demander au mec de payer pour qu'il mette son encart, alors que si tu lui demandes rien et t'en parles, tu lui fais quelque part de la publicité, mais il n'y a aucun rapport marchand dans l'histoire.
Quelque part aussi, que je dis ça en tant que label. Nous, ça nous arrive de prendre la pub, et y compris, on a fait un échange à un chat,
vois. Moi, si j'avais, mine de rien, une presse alternative suffisamment vaillante, je préférerais carrément prendre des pubs dedans dans des canards normaux, toi. Et pour le principe qu'il faut soutenir les gens qui te soutiennent, quoi, c'est un truc de base. Et c'est vrai qu'après ça, ça induit des rapports un peu compliqués. C'est-à-dire que quand je vois des canards comme Hello, par exemple, qui est censé être de la presse underground, mais qui n'en est pas. Longueur d'onde. Où en fait, quand t'as un papier qui va passer dedans, le chef de pub il t'appelle pour te vendre la pub, et grosso modo, tu sais que ta taille d'article va être proportionnelle à la pub que tu prends. Ça, c'est naze. De même que, par exemple, quand les gens qui vont prendre des pubs dans les canards et qui après ça vont demander de la rédactionnelle qui va avec, c'est aussi naze. En même temps, je pense qu'il y a. Il y a moyen d'arriver à avoir des rapports à peu près sains. Ça me semble complexe, mais c'est possible.
Ben c'est à partir de ce moment-là, si plutôt se mettre en connexion avec les canards et pour avoir une interview ou un truc que tu monnaies.
Ouais, mais en même temps, tu vois, si ça peut aider au fonctionnement du canard, quoi. Ouais,
mais ça peut l'aider d'autres manières. Tu peux acheter 30 abonnements.
Ouais,
c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après ça, tes histoires de stockage.
Ouais,
mais
tu regardes.
C'est la publicité presque dissimulée parce que lui, du coup, ça devient ton pote.
Non, mais si tu veux, il y a aussi un truc, moi
c'est
je vois.
C'est extrêmement complexe.
Ouais, un canard que j'ai lu beaucoup, qui est en kiosque, qui était au départ un fanzine, c'est Mad Movies. Il y a des publicités pleines pages pour des petits diffuseurs de films indépendants, à pas que des grosses boîtes. Et t'as une publicité pleine page pour un film. Ah, le super machin avec des taglines de ouf. Et puis trois pages après, t'as une chronique qui dit c'est de la merde et tout.
Oui.
Tu vois, à un moment donné, tu fais quoi? C'est quoi ton canard? Tu vois, c'est ça. Et même si c'est des poteaux ou des trucs. Moi, je préfère, tu vois, je t'ai dit à un moment donné, même après, c'est des rapports, ça, moi, Marsu, je peux bien le
dire. C'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que la rédaction, elle fait ça.
Oui, mais si tu veux, c'est un peu. Tu fais le grand écart. Moi, par exemple, Marsu, c'est tout court.
Maxime Rock'n'Roll. Tu prends l'exemple de Maxime Rock'n'Roll, qui est une revue qui est dans le genre rock, disons, a quand même épignon sur rue et une respectabilité. Bah, ils ont des pubs.
Ben c'est ce que je dis, moi ça me fait chier.
Et ça n'empêche pas que leurs chroniques, elles sont écrites de manière évidemment subjective, mais honnête.
Oui, mais ça m'emmerde parce que aussi il y a un truc. Moi, par exemple, je reçois plein de disques, on reçoit plein de disques à Jérémy qu'on n'a rien demandé à personne. Et je préfère que les gens ils nous disent bah tiens, ça pourrait t'intéresser. Comme tu vois, moi je sais que. Même le rapport avec Marsu Crash, je sais qu'il va pas m'envoyer un scud qui. Alors, des fois, il me pousse un truc sur un truc comme la Talvera, l'espèce de. Mais c'était génial ce truc-là, et que j'aurais pas focalisé dessus. Après, il y a des rapports qui se font, mais après, ça, c'est un réseau. C'est un réseau, c'est pas. Tu vois, moi, j'ai reçu deux DVD en promo d'une petite boîte de films qui a ressorti deux vieux films avec Bela Lugosi. Bon bah ils lisent le canard, ils savent que ça peut m'intéresser, ils m'ont envoyé un mail si ça m'intéressait de recevoir ces trucs là et que j'en parlerais et tout. J'ai dit bah ouais là ça m'intéresse et tout, et voilà je sais que je vais en parler et puis ça m'intéresse et effectivement d'en parler en soutenant le travail de cette boîte d'édition indépendante qui sort. Là il y a c'est plus un réseau, c'est pas vraiment de la publicité, c'est juste de faire des connexions entre les différentes personnes. Mais merde, putain, il y a des piles comme ça de ce que je reçois, je les écoute une fois, j'ai des cauchemars. Tu vois, et les gens, et comme à la Jimmy, comme on a fait les tables de presse sur ce truc-là, il y a des gens, ils arrivent, t'as la table de presse avec le canard, ils regardent pas le canard une seule seconde, ils le feuillettent pas, ils te proposent un disque de grind démo progressif, je sais pas quoi. Et puis jette un œil, jette une oreille, jette un œil, toi, ce que je fais.
Généralement, c'est des mecs pas formés aussi, ils arrivent, faire comme ça,
on a fait des débats, des rencontres là-bas pour expliquer aux gens comment. Bah, bref. Mais à un moment donné, les réseaux, on est basés tous sur des réseaux. On va revenir je pense que d'autres personnes peuvent prendre la parole aussi sur des réseaux, au lieu de parler aussi plus précisément sur le chavis, mais nous, par exemple, voilà. On a un pote à Lyon et on a 10 points de diffusion à Lyon. On envoie le stock à un pote, ça nous coûte moins cher de la poste. Bon, après, il sort deux fois par an maximum, mais chez lui, c'est pas trop de boulot. Et il fait le tour. Et puis, il a des rapports avec des libraires, il discute avec les gens, c'est super.
Et comme l'aspect dont on n'a pas parlé, justement, qui est quand même vachement corollaire à tout ça, c'est l'aspect justement militant. Et un truc qui me semble vachement flagrant depuis les années 90, c'est quand même qu'il y a une tendance à l'atomisation. On voit quand même, ça se sent, je pense, au niveau des fanzines. Il y a des fanzines avec des équipes de plus en plus réduites, souvent. Je pense que ça, c'est un des gros freins de la diffusion aussi. À mon avis, il me semble qu'il y avait nos époques, par exemple, à l'époque dans la fin, puisque c'est il y avait une base près de Vienne, où il y avait quand même un réseau avec des gens un peu partout et qui se complétaient. Tu vois. J'ai pas l'impression, vous, ça fonctionne, mais il y a quand même beaucoup de publications où ce truc-là se fait pas du tout. Quoi.
Après, il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est l'émergence du blog.
Alors, oui, j'en ai parlé tout à l'heure.
Il y a pas mal de gens qui maintenant s'expriment, qui ont des carnets de bord et leurs chroniques, ils les publient en ligne, ça ne coûte pas de thunes. C'est complètement un autre rapport à l'information, au lecteur, etc. Mais tu vois, c'est même pas une disparition du transit, puis il y en a toujours.
J'avais fait un petit recensement l'autre coup des blogs et webzines, tu vois. En France, il y en avait plus de 1000.
Dans tous les domaines, musicaux
et alternatifs, entre guillemets, ça qui parle,
bien sûr, bien
qui
sûr,
parle politique, ça, musique
mais
et
ça,
art.
Mais ça, non, ça, on le sait. Je me pointe à un festival reggae en 2004. Je demande, j'arrive avec le Chéri Bibi en demandant une accréditation parce que je vais interviewer des mecs et tout. Ils disent, bah non, on a déjà 70 journalistes reggae. Je lui fais, vous les avez trouvés où en France 70 journalistes reggae? Et voilà, t'avais 10 trucs, 5 trucs en papier et encore 3 trucs en papier peut-être, tout le reste c'était des trucs de web. Mais bon, ça encore, et encore il y a ceux, après on pourra en parler des heures, mais ceux qui font des blogs où ils font gaffe à qu'il n'y ait pas de pub dessus, c'est des hébergeurs qui... Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais moi je reste persuadé que ça c'est un faux débat parce que tu foutras jamais un... Ouais, il y a 14 pages, j'écris encore Mignon Condensé de 8,5 sur... Screaming Jay Hawkins, si tu veux lui lire sur internet, va voir ton ophtalmo.
C'est vrai que là tu as pointé un truc vachement intéressant sur le côté du côté du web, c'est qu'on est quand même vachement dans les médias. Donc les médias c'est du bref. C'est du bref. Et c'est l'expéditif.
Mais ça c'est ouais, on voulait même faire le blog qu'on a fait du Chéri Bibi, qu'on alimente une fois par mois à peu près, mais où il y a la liste de tout. C'est un support de promotion. Il y a tous les endroits où on est diffusé, on met à jour, il y a la revue de presse, il y a les machins, et tout, les sommaires et tout, mais il n'y a pas le contenu. Et c'est la question, on voulait même faire une rubrique Frequent Ask Web Question, parce qu'on nous la repose tout le temps. Quoi. Et moi, avant, je répondais, t'as pas une connexion ADSL dans tes chiottes, et maintenant, ça m'énerve tellement, je réponds parce que je déteste les arbres et je veux leur éradication complète. Ou pour venger la mort de Ian Stewart qui s'est écrasé contre un platane, tu vois, mais bon, à un moment donné, c'est tellement débile de... C'est cette...
Ian Stewart, rappelle-nous qui c'est.
Oh, Ian Stewart, c'est un grand mania de la presse d'extrême droite anglaise.
Tu t'es du propre.
Non, mais, bon, je trouve que ça, c'est encore autre chose. Là, on est dans le paplard et on fait tous du paplard et on va pas arrêter.
Mais il ne faudrait quand même pas, moi, je trouve, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de presse alternative underground en limitant ça à l'aspect papier. Alors justement, moi je pense qu'il faut prendre la dimension web de plus en plus en compte parce qu'elle existe réellement et que c'est un truc qui permet, comme les fanzines dans le temps qui étaient 50 exemplaires avec le mec qui avait tout écrit à la main, toi, qui permet aux gens de faire quelque chose qui est propre. Ouais. Il y a quand même pas mal de webzines, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a de la pub effectivement, qui sont correctement écrits et correctement
mis en place. Je suis pas contre, tant mieux. Hein.
Mais on sort du cadre de la presse, c'est autre chose. La presse, enfin, dans la presse, pour moi,
c'est un média.
Dans la presse, il y a la dimension papier, quoi. Le fait de sortir un objet imprimé, effectivement, tu peux aller lire aux chiottes, quoi.
Non, mais attends, on peut causer de la radio dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire? Là, on fait pas une.
Attends, on est une période où tous ces trucs-là sont intimement liés, c'est évident.
Oui, mais il y a autant de différences entre un canard en papier et un webzine qu'entre une émission de radio et un journal en papier. Tu vois, c'est totalement différent.
Oui, mais c'est quand même.
Là, on est en train, je dis ça pour un peu recentrer aussi le truc, c'est on est en train de parler de la presse en papier et de comment on arrive, nous, avec nos problèmes d'imprimeur et tout. C'est sûr que les webzines, les radios ont d'autres problèmes. Les radios, en ce moment, avec le passage au numérique, on pourra en parler aussi des heures, mais sauf que. Nous, on fait, jusqu'à preuve du contraire, on fait tous du papier.
Ouais, mais attends,
on a pas tous des arbres.
Il faut se poser la question de la pertinence. Il faut se poser la question de la pertinence. L'argument que
tu
as donné par rapport
au 8 pages et demi.
Non, mais parce que moi, c'est une question que je me pose hyper régulièrement.